Bonjour, aujourd'hui dans cette émission, nous parlerons de l'or africain en compagnie de Camille de Vitry. Camille de Vitry a réalisé deux reportages en 2002 sur le thème du prix de l'or. L'un public et le second confidentiel. 50% de la production mondiale d'or provient d'Afrique et notamment du Mali où s'est rendu Camille de Vitry pour la réalisation de ces deux films. Alors Camille de Vitry, comment a débuté la naissance de ces deux films ?
Je réalise des documentaires, en particulier donc le prix de l'or sur une gigantesque mine d'or dans laquelle je suis tombée un peu par inadvertance en 2002. Et en partant de Grenoble, j'ai une drôle d'impression que la boucle est bouclée. Je reviens finir présenter ce film terminé 5 ans plus tard et terminé, puisque l'affaire est partie de Grenoble en suivant un conteneur de matériel médical, le but étant d'équiper une maternité dans la région de Caille par un don du CHU de Grenoble et convoyé jusqu'à Caille par l'association Aide médicale et développement qui est basée à Grenoble. Et c'est en me posant la question pourquoi cette région est si pauvre que l'émigration là-bas est une question de survie collective. Il y a des villages entiers dont tous les hommes valides sont partis. Et donc en effectuant un reportage sur un de ces villages, j'ai escorté ce conteneur de matériel médical qui se retrouve bloqué à Dakar et moi à Caille pendant la fête de Tabaski. La fête du sacrifice, le pays entier s'arrête de bosser pour aller faire la fête, c'est l'équivalent de Noël ici. Et plutôt que de tourner en rond à mordre la poussière, j'ai sauté dans un camion et j'ai été visiter cette mine d'or gigantesque. Pourquoi ? C'est pas seulement sur un coup de tête, c'est parce que, avant de partir, j'avais fait des recherches sur l'internet, quelles sont les ressources de la région de Caille. Je tombe sur le site de I Am Gold.
La région de Caille, c'est où exactement ?
Caille, c'est au Mali, c'est à l'ouest du Mali, c'est frontalier avec le Sénégal et la Mauritanie au-dessus et l'Algérie. C'est une région dont 80% des Maliens en France viennent. C'est-à-dire c'est vraiment une région d'émigration, comment on dit, traditionnelle. Voilà, c'est traditionnellement un lieu d'où les gens partent. On est au bord du désert du Sahara, il n'y a rien. Et voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert en trouvant cette mine d'or ?
Ma foi, ça a été extrêmement toxique. À peine j'ai mis un pied, quoi. Et même dès l'approche. C'est-à-dire, j'ai sauté dans un camion, vraiment, sans prévenir personne au monde. Pure folie. Je savais pas où je mettais les pieds. Quand on a approché la première rangée de clôtures de barbelés autour de la zone de concession minière, même pas de l'exploitation elle-même, non, de la zone de concession qui regroupe 46 villages, etc., et tout le monde sortait son passeport. Déjà, je trouvais ça étonnant. On faisait pas un trajet d'une région à l'autre ou quoi. On faisait rien qui justifie de montrer son passeport. On a vraiment l'impression déjà d'entrer dans un autre état. Un état dans l'état. Et c'est une pure dictature. Et là, bon, moi, j'aurais dû être bloqué, refoulé. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un blanc qui s'est arrêté. En Toyota climatisé, il a baissé sa vitre, et il m'a demandé « May I inform you ?» Et moi, j'ai fait la française, hein. « Yes, if you please !» Et puis, et il m'a ouvert les portes. J'arrivais pleine de bonne volonté, en fait. J'étais dans un autre film, j'accompagnais un conteneur de matériel médical, je disais pas un mot de faux, sauf sur tout de suite, j'ai menti, oui, c'est vrai, en disant « Il y a mon équipe qui m'attend à Caille. » Parce qu'on est bloqué pour la fête de Tabaski, donc j'en profite pour visiter cette mine d'or. L'équipe, c'était moi. Mais j'avais vraiment besoin d'une équipe qui m'attendait à Caille à ce moment-là, pour me sentir un peu moins seule, quoi. Parce que tout de suite, on sentait que ça rigolait pas du tout, du tout. Et voilà, le lendemain matin, j'ai pu pénétrer dans la mine avec... J'étais guidée, escortée d'un bout à l'autre. On m'a pas laissé visiter en 2002. Hein, on m'a pas laissé visiter l'intérieur du centre de traitement. On m'a même pas évoqué le bassin de boue cyanurée. C'est l'ingénieur des mines qui, dans le film, qui dit bon bah alors le déchet il est rejeté. on le laisse. Enfin, il m'explique le processus de production de l'or dans le film et il me dit le résultat de ce processus, c'est l'or en lingots qu'on exporte avec une mine extatique. Et je dis, et le déchet, qu'est-ce qu'il devient ? Le déchet, il est prévu que ce déchet doit rester sur place, il ne présente pas assez de risques environnementaux. Déjà, la phrase était un peu, je dirais, poétique. Et le cyanure s'autodétruit, tout le monde le sait, avec les rayons ultraviolets. Moi, j'avais un doute. Depuis, je me suis renseignée. Dans le meilleur des cas, selon les propres chiffres de AngloGold, qui exploite la mine, filiale de Anglo-American Corporation basée en Afrique du Sud. Je le dis au passage parce que Anglo-American, ça fait pas du tout Sud-Africain comme nom. Mais c'est bien l'Afrique est toujours au pillage, mais depuis quelques années, le ton du pillage a changé. Aujourd'hui, il s'exprime en anglais. Voilà la différence essentielle. Par exemple, on parlera pas de Rwanda, on parlera de Sadiola, Sadiola.
Chababa sanya mabudi donda bunam katuma bola singesi nyagi jaite matiranga pula kamara oma matanga pula jasi arara sambu pula mane majikole mekidi dai tafaro bayara ila sube ufurenga bun. Talle, talle o talle, nima, sinimbe nima le tebe.
Ce conteneur de matériel médical qu'on a escorté jusqu'à Kai, c'est bien beau, mais c'est, j'appellerais ça un emplâtre sur une jambe de bois. On se donne bonne conscience, bien sûr. On se dit, oh, regardez ce qui est beau, c'est beau ce qu'on a fait. Et c'est vrai, aujourd'hui, les femmes, elles accouchent dans des conditions plus décentes. Mais c'est pas en donnant une table de travail, un ci, un là, en créant des assistés, des gens qui vont toujours quémander, qui vont même devenir incapables à terme de mettre en valeur leurs propres ressources. Regardez Sadiola, pourquoi elle n'est pas exploitée par l'État malien lui-même ? Pourquoi ? Alors que ce gisement, il est connu depuis la nuit des temps, c'est le gisement légendaire du Bambouk, l'or du Bambouk, l'empire du Bambouk. Le roi Kankan Moussa, quand il a voyagé à la Mecque au XIVe siècle, il a tellement répandu d'or sur son passage qu'il a fait chuter le cours de l'or dans le monde entier. Donc cette mine, elle était connue et archi-connue. Pourquoi c'est pas l'État malien qui l'a exploitée ? Question de politique, répond l'ingénieur des mines dans le film. Je reviens à cette prédation supranationale, quoi. La Banque mondiale commence par, dans ces pays qui ont besoin d'être aidés, commence par assouplir leur législation au point qu'il n'y a plus aucun droit syndicaux, du travail, etc. Elle impose dans ses conditionnalités, j'ai cru rêver, hein, elle impose comme prérequis à la capitalisation le droit de pouvoir embaucher ou licencier la main-d'œuvre à volonté. Quand on voit les conséquences dans le film, c'est pas compliqué. Un ouvrier tombe malade, on lui renouvelle pas son contrat de travail qui, par chance, durait une semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Il crève, il va crever ailleurs. On l'envoie crever ailleurs, physiquement. Donc, et également, la Banque mondiale a imposé à l'État malien de pouvoir récupérer au maximum 20% de ses dividendes aurifères. Et tout le reste étant livré aux compagnies multinationales comme Anglo-American, etc., etc., etc. Et donc, là, le scénario est en place. Le peuple est à bout. Enfin, je ne veux pas aller jusqu'au bout de la catastrophe, mais tout ça pour dire que ce conteneur de matériel médical, c'est un petit rien. Que le problème est beaucoup plus profond que ça. Je dis la boucle est bouclée, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une boucle, c'est une spirale, parce que je ne suis pas la même qu'au point de départ. J'ai énormément appris. J'ai eu l'impression de mettre l'œil de ma caméra sur les plus gros rouages mafieux du monde. Et sans vouloir tirer également l'alerte environnementale, mais on est au bord du désert du Sahara. Au bord. Ces mines, ce sont des milliers d'hectares désertifiés, pourris d'eau cyanurée, de drainage acide minier, de toutes sortes de phénomènes complexes qui se, qui se passe quand on creuse des trous, des gigantesques carrières à ciel ouvert à 180-200 mètres de profondeur où l'eau du sous-sol remonte et devient pourrie d'éléments chimiques qui sont présents dans le minerai lui-même, donc notamment l'arsenic. Et après, tout le monde s'alerte sur l'état de la planète, il faut sauver la planète, il faut développer l'Afrique, il faut aider l'Afrique. Mais quand on voit ce que deviennent les aides publiques au développement, pardon, on fait exactement l'inverse. C'est toujours ce système de prédation qui se met en place. Ce qui est très alarmant, c'est que derrière ce système d'exploitation minière, il y a des très gros intérêts. Il y a Anglo-Américain, bon, je l'ai déjà dit, mais derrière Anglo, il y a De Beers, il y a Oppenheimer, il y a Barrick Gold, il y a Bush. Directement, la campagne de Bush a été financée à hauteur de 148 000 dollars par Barrick Gold Corporation, qui est une copine, quoi. Barrick s'est allié à Anglo, américaine, pendant la guerre civile des Grands Lacs, qui a fait près de 3 millions de morts, pour pouvoir continuer à exploiter pendant la guerre civile. Selon le même minerai, l'or, selon les mêmes processus d'extraction, traité au cyanure, mais vous n'avez jamais entendu parler de pollution au cyanure au Congo, Brazzaville, en République démocratique du Congo. Jamais. 3 millions de morts là-dessus et il n'y a plus une trace de cyanure. Mais c'est très réaliste. C'est-à-dire, j'ai parlé avec des avocats qui ont enquêté des années sur cette guerre civile et qui n'ont jamais entendu parler de pollution au cyanure. Tout ça pour... Je tire la sonnette d'alarme dans tous les sens, quoi. Ces types-là sont alliés à des marchands d'armes. Ils ont des sociétés de mercenaires. On les a identifiés. Tout ça, ça sera dans le bouquin « L'or africain ». Parce que tout cet or détourné, je pense au bas mot, aux deux tiers de la production, il va où? Il rejoint des sphères complètement opaques, de blanchiment d'argent, etc. Des paradis fiscaux, des réseaux de marchands d'armes. Quand on voit le pedigree de Mark Nathanson, le numéro 1 de I Am Gold, qui exploite Sadiola également, I Am Gold et Anglo Gold, sont les deux actionnaires majoritaires. Mark Nathanson, c'est un type qui a équipé les dictatures africaines en instruments dits de sécurité. Mais quand on voit les instruments de sécurité sur leur site, moi j'appelle ça des instruments de torture. Enfin, c'est une horreur. C'est un cauchemar absolu, ce scénario. À un moment, je suis un peu scénariste aussi, je réalise des films, quoi. À un moment, on en a marre, on dit stop.
Au XXIe siècle, l'or intéresse quelle forme de richesse, ou quelle forme d'industrie, ou quelle forme de commerce?
Très honnêtement, je ne me suis pas penchée sur l'autre aspect de la question, c'est-à-dire cet or, une fois qu'il est dehors, qu'est-ce qu'il devient? Ça sera l'objet de plusieurs publications à la rentrée. Il y a un dossier noir édité par l'association Survie, rédigé par Gilles Labarthe et initié par François-Xavier Verchat avant qu'il ne décède en 2005, en juillet 2005. Et... qui s'appellera, je crois, l'or africain ou l'or d'Afrique, quelque chose comme ça, qui concerne pas seulement le cas de Sadiola, mais les mines d'or en Afrique en général. Et là, bien sûr, on va chercher à savoir que devient cet or. Mais de plus en plus, il y a des mobilisations, disons, une mobilisation internationale qui se passe à ce niveau-là. Et au niveau des pays actionnaires, le Canada, l'Afrique du Sud, et au niveau des pays, victimes, le Mali, le Ghana, le Sénégal de plus en plus, qui est également le long de cette même veine aurifère, et au niveau des pays bénéficiaires en quelque sorte. Aux États-Unis, il y a un mouvement puissant qui s'est mis en place qui s'appelle No Dirty Gold, pas dorsal. Et qui vise à culpabiliser les gens sur leurs alliances de mariage et tout ça. Moi, j'ai rien à dire, hein. On a tous un petit cri-cri en or quelque part, hein. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question d'où il vient, dans quelles conditions il est produit. Et puis, il y a aussi, une autre campagne, Publish What You Pay, publiez ce que vous payez, qui est relayée par Survie également, et qui vise à imposer la transparence à ces sociétés multinationales. Donc, vous voyez, il y a vraiment un vaste mouvement associatif, supranational aussi, qui s'est mis en place. Moi, je dis, à prédation supranationale, résistance altermondiale.
Pour voir le prix de l'or, quand on n'a pas la chance de pouvoir assister à une projection en direct, comment faut-il faire?
D'abord, le prix de l'or, je voudrais signaler tout de suite, c'est pas infime. C'est déjà aujourd'hui, au stade actuel, je crois, j'espère, final. C'est deux films, un de 45 minutes, un de 52 minutes. Le 52, je vais essayer de le vendre. Mais l'un concernant le sort des ouvriers et la façon dont toute liberté syndicale est muselée, dont eux courent les risques les plus fous à chaque poste de travail où ils se trouvent, et l'autre concernant le sort qui est fait aux populations locales, en fait, des villages entiers où les femmes n'ont plus de bébés. Parce que le marigot est contaminé avec les produits de traitement. Pas seulement le cyanure, il y a aussi toutes sortes d'acides, l'arsenic qui émane du minerai lui-même quand il est excavé à une certaine profondeur, etc. etc. Enfin bon, c'est une vraie saloperie environnementale, ces exploitations. Maintenant, voir le film. Eh ben, vous pouvez le commander à l'association Survie, ou bien, de toute façon, le 52 minutes, je vais le mettre en ligne, voilà, sur Dailymotion. Dailymotion.com/Camille de Vitry, tout collé, avec un Y au bout.
Merci à Camille de Vitry de nous avoir parlé de la réalisation de ces deux reportages sur le prix de l'or. Musicalement, ce sont Tama et Sushila Raman qui nous ont accompagnés durant cette émission, extrait de l'album One World, Any Culture. Merci, à bientôt.
Arara sanfu pula mane majikole mekidi dai tafar goyara inda sube ofrenga bon dale dale o dale nima sinimbe nima le tebutama sirao nanale dobale. Malé.